France Inter.
Hélène Philippe, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le Rwanda est prêt à accueillir les charters dans une dizaine de semaines, alors que la loi britannique votée hier pour y expulser les migrants provoque un tollé aujourd'hui jusqu'à l'ONU. Le Premier ministre britannique assume, il voit même dans le drame de ce matin dans la Manche 5 personnes noyées, la preuve de l'importance de son plan. Mathilde Panot, convoquée par la police pour apologie du terrorisme, la France insoumise, indignée, la chef de file insoumise soutenue aussi au PS et chez les écologistes. L'actualité, c'est encore une aide d'urgence pour les EHPAD. Le gouvernement débloque 650 millions d'euros pour les sortir du rouge. Un ami qui ne vous fait pas que du bien, le premier témoin au procès de Donald Trump, est un proche de l'ancien président, mais un témoin à charge. Les croisières ont le vent en poupe, encore plus qu'avant. Et puis on fait de la place dans les aéroports pour les encombrants bagages des athlètes des JO, celui des perchistes notamment. Juste après ce journal, la présidente de la CNIL est au téléphone, sonne, elle vous répond au 01 45 24 7000.
France Inter.
La mer était calme, mais l'eau à 10 degrés. 5 personnes ont péri ce matin dans la Manche, quelques heures après le vote de la loi britannique, dénoncée comme une loi de sous-traitance de l'immigration illégale, infamante. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord ce nouveau drame. 3 hommes, une femme et une petite fille de 7 ans sont tombés d'un canot surchargé à quelques centaines de mètres des côtes de Vimereux, dans le Pas-de-Calais, où vous vous trouvez. Bonsoir Sandrine et Toa Andegue.
Bonsoir à tous.
Et ils n'ont pu être réanimés.
Oui, et c'est toute la commune de Vimereux qui est sous le choc ce soir, Hélène. La vie a repris son cours, notamment sur cette plage des Allemands où le drame a eu lieu, plage prisée des familles et des touristes en ce début de vacances de printemps. C'est la deuxième fois que ce drame se produit sur cette plage depuis le début de l'année. Un naufrage avait déjà fait 5 décès en janvier, hein, c'est ce qu'a rappelé le maire de Vimereux, Jean-Luc Dubel, qui s'interroge à quand un dispositif efficace pour arrêter les passeurs qui ont jugé la météo favorable ce matin pour tenter la traversée. Aux environs de 6 heures du matin, vent léger, ciel dégagé, une mer calme et une eau pourtant très froide, moins de 10 degrés. Et donc ces 112 personnes entassées sur cette embarcation de fortune, 112 personnes du jamais vu, selon le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Briand. Et le moteur de cette petite embarcation s'est arrêté. Plusieurs personnes se sont retrouvées à l'eau et vous l'avez dit, ce lourd bilan, 5 morts, 3 hommes, une femme, une fillette âgée entre 4 et 7 ans. C'est terrible, commentent les migrants avec qui j'ai discuté cet après-midi. Ils viennent du Pakistan, d'Érythrée, de l'Inde. Et ce drame ne va pas les dissuader d'essayer encore de gagner l'Eldorado britannique, ni cette nouvelle loi qui permet d'expulser les migrants qui arrivent en Angleterre vers le Rwanda. Ils vont tenter encore, certains en sont à la 5e tentative, prêts à tout, à prendre tous les risques pour une vie meilleure.
Merci beaucoup Sandrine. Et toi, Andegue, en direct du Pas-de-Calais, le naufrage qui a fait réagir jusqu'au Premier ministre britannique ce matin, Rishi Sunak. Il y voit une preuve de l'importance de cette loi que vous évoquiez, adoptée hier soir au bout de 2 ans de bataille acharnée pour expulser ceux qui arrivent illégalement sur le sol britannique vers le Rwanda, qu'ils en viennent ou non. Des avions charters sont déjà réservés. C'est une infamie sans nom, dit Amnesty International. Et le Rwanda, un pays déjà très peuplé, très jeune, qui n'a pas de travail pour tous. Bonsoir Béatrice Duguay.
Bonsoir.
Il y voit quel intérêt ?
Un intérêt financier puisque clairement le Royaume-Uni paie pour ce transfert. Plusieurs centaines de personnes seront accueillies dans les prochains mois. D'abord dans des hôtels tout près, puis dans des petites maisons en cours de construction à Kigali, raconte Alain Mukuralinda, vice-porte-parole du gouvernement rwandais.
Le budget est là. Le gouvernement britannique a décidé de financer. Ce matin, j'entendais au journal qu'il y a des gens qui se sont noyés cette nuit. Personne ne propose une solution. Au moins, ces deux gouvernements vont essayer de mettre en place une autre façon de faire, une autre solution. Peut-être qu'il va marcher ou qu'il ne marchera pas, mais au moins, les deux pays auront essayé.
Logements construits par les Rwandais, avec des matériaux rwandais, argent directement investi dans l'économie du pays, ajoute-t-il. Les migrants pourront apprendre le Kinyarwanda et trouver un emploi ensuite. Mais il y a un fort chômage dans notre pays, rétorque Victoire Ingabire, l'une des rares voix d'opposition au Rwanda. Comment offrir du travail aux immigrés, s'interroge-t-elle. Et elle estime que cet accord ne résoudra rien pour la Grande-Bretagne.
Beaucoup parmi eux, ce sont des réfugiés économiques. Le Rwanda est un pays pauvre. Imaginons par exemple, il y a quelqu'un qui a quitté le Soudan du Sud. Il est arrivé en Europe et vous pensez que vous allez le faire revenir et vivre au Rwanda. Il ne va pas accepter parce que quand même, il savait que le Rwanda existe. Il a passé à côté du Rwanda. Moi, je suis sûre que ces réfugiés vont retourner en Europe. Donc, ce n'est pas vraiment la solution au problème des immigrants qui entrent illégalement en Grande-Bretagne.
Mais le gouvernement rwandais affiche quand même dans cet accord son leadership africain aussi, lui qui accueille déjà des réfugiés soudanais de RDC et de Burundi.
L'ONU demande au Royaume-Uni aujourd'hui de reconsidérer ce plan. Merci beaucoup Béatrice Duguay. Et puis, le numéro 3 de la liste RN aux Européennes, Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières, a-t-il facilité des refoulements illégaux de bateaux de migrants en mer dans le cadre de ses fonctions? La Ligue des droits de l'homme et Utopia 56 portent plainte à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture. C'est une information de nos confrères de France Info et du Monde ce soir.
La chef de file des députés insoumis à l'Assemblée, convoquée par la police.
Mathilde Panot, soupçonnée d'apologie du terrorisme. Le 7 octobre dernier, la France insoumise en déduit qu'il s'agit du communiqué publié après l'attaque du Hamas par le groupe parlementaire, attaque décrite alors comme une offensive armée de forces palestiniennes. Une convocation en tout cas qui provoque un tollé à gauche. Jean-Luc Mélenchon y voit un événement sans précédent. Le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, une volonté de bâillonner l'expression politique. Lui qui rappelle que la plainte provient de l'organisation juive européenne.
Ça participe d'une campagne sous la pression, puisqu'on a appris qu'une association de soutien au gouvernement de M. Netanyahou a porté plainte contre un certain nombre de figures politiques, syndicales, intellectuelles. Et je regrette que la justice française semble en quelque sorte contribuer ou encourager ce type de propos. Et je crois que ça s'inscrit dans une dérive autoritaire du pouvoir en place. Je veux quand même dire que c'est, à ma connaissance, inédit qu'une présidente de groupe parlementaire fasse l'objet d'une telle convocation. Dans une démocratie, on a le droit d'exprimer son point de vue, on a le droit d'exprimer ses opinions à partir du moment où il respecte le cadre de la loi. Et là, c'est clairement le cas. Et moi, je veux dire deux choses. Que ça doit s'arrêter immédiatement. Et instrumentaliser les accusations de terrorisme dans le cadre d'une campagne électorale, c'est très dangereux, c'est irresponsable. Deuxièmement, je veux vous dire que face à ces campagnes d'intimidation, bien évidemment, rien ne nous fera taire.
Manuel Bompard avec Laurence Perron et je me tourne vers vous. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Pourquoi une telle convocation?
Alors l'objectif est de déterminer dans quel contexte ont été tenus les propos imputés à Mathilde Panot, quelle était l'intention derrière, leur portée. Elle ne sait pas précisément de quoi il s'agit. Sa convocation précise que ce sont effectivement des faits du 7 octobre. Mmh. Pour le reste, vous l'avez dit, ce n'est qu'une déduction, le fait que ce soit lié au conflit israélo-palestinien. Donc l'objectif, une fois que tous ces éléments de contexte ont été recueillis, c'est de voir si les critères de l'apologie du terrorisme sont réunis, c'est-à-dire que ceux dont la personne fait l'apologie soient considérés comme des faits terroristes, logique, que les propos aient été tenus à l'intention d'un public et qu'ils portent un jugement favorable aux faits ou auteurs des faits en question et qu'ils mettent victimes et auteurs sur le même plan. À l'issue de cette audition, le parquet décide, un classement sans suite ou des poursuites, puisque, on le rappelle, ce n'est pas parce que vous êtes entendu pour apologie du terrorisme que vous êtes jugé coupable d'apologie. Ici, il n'a pas été précisé à Mathilde Panot qui ou quelle association était à l'origine de la plainte qui l'a conduite devant la police judiciaire. Là aussi, c'est une déduction de Manuel Bompard qu'on vient d'entendre, mais chaque signalement de ce type donne lieu à une enquête.
Éclairage signé Ariane Grissel à New York. Ce sont plus de 130 personnes qui ont été arrêtées la nuit dernière après des manifestations étudiantes pro-palestiniennes, arrestations qui interviennent au moment où plusieurs campus américains s'embrasent de nouveau en raison du conflit à Gaza. Et aux États-Unis, voici déjà un moment clé du procès de l'affaire Stormy Daniels. Donald Trump, accusé d'avoir voulu étouffer sa relation avec cette ancienne star du X et d'avoir payé pour ça lors de sa première campagne présidentielle. Moment clé parce que le premier témoin est un proche de l'ancien président, l'ancien patron de presse David Pecker. Loïc Loury, vous suivez ce procès pour France Inter à New York, vous êtes en direct et ce témoignage est à charge.
Oui, parce que c'est l'une des chevilles ouvrières en fait de cette histoire. Lui, l'ex-patron du National Enquirer, un tabloïd qui pratiquait le catch and kill, c'est-à-dire qu'il achetait et enterrait les histoires plutôt que de les publier. On parle beaucoup de Stormy Daniels, mais il y avait eu Karen McDougall, l'ex-mannequin payé pour taire une relation présumée. Il y avait eu aussi un portier rémunéré pour ne pas divulguer une histoire d'enfant illégitime. Bref, l'accusation veut montrer, grâce à Pecker, son premier témoin, que cette pratique était courante avant 2016 et donc au centre d'un complot destiné à cacher des informations aux électeurs. C'est tout cela que Pecker raconte, les liens incestueux entre l'ancien Golden Boy Donald Trump et son tabloïd, les histoires sordides mises sous le tapis, en particulier dit-il lorsque cela concernait des femmes, leur amitié aussi depuis les années 80. Et les propos de Pecker sont d'ailleurs peut-être d'autant plus dommageables pour Trump que l'ex-patron de presse très calme ne montre à la barre aucun signe d'hostilité à l'égard de son ancien ami et ancien président.
D'audience signé Loïc Loury en direct de New York.
L'État au secours des EHPAD, une enveloppe de 650 millions d'euros débloquée en urgence.
Quelques jours après la publication des chiffres du secteur, 85% des EHPAD publics sont dans le rouge. C'est un record. Il paie la perte de confiance depuis le scandale Orpea, l'inflation, mais aussi le fait qu'on arrive en EHPAD de plus en plus tard, que la prise en charge est de plus en plus lourde. Bonsoir Alice Cachaner.
Bonsoir.
Le gouvernement décide donc d'agir.
Oui, les dotations de l'État vont augmenter de 5% dans les EHPAD publics, 5% dans l'associatif et 3% dans les établissements commerciaux. Une bouée de sauvetage très attendue alors que de nombreux établissements sont dans le rouge. Détail Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes âgées.
Dans les EHPAD publics, ce sera plus de 5%, un vrai ballon d'oxygène. Et pour le privé, c'est 3% parce que le privé, ils ont la possibilité de moduler les tarifs hébergement en fonction des ressources des personnes, ce que ne peut pas faire le public aujourd'hui.
Mais augmenter les dépenses de l'État, eh bien, ça ne fera pas tout. Aujourd'hui, le financement d'une place en EHPAD provient de trois sources. L'État finance uniquement les soins médicaux, le salaire des infirmières, des aides-soignants, les médicaments, la partie hébergement. Les repas, la chambre est à la charge des résidents. Restent les départements qui financent les frais liés à la dépendance des personnes âgées. La balle est donc aussi dans leur camp, affirme la ministre.
Je pense que chacun doit prendre sa part de responsabilité. L'État, bien sûr, est aux côtés des EHPAD. Après, bien sûr, les départements doivent prendre aussi la leur.
Au-delà de ce nouveau plan d'urgence, le gouvernement réfléchit à une simplification de la tarification des EHPAD, une réforme structurelle, un nouveau modèle de gouvernance où l'État prendrait en charge à la fois les sections soins et dépendance. Une expérimentation doit avoir lieu prochainement dans une dizaine de départements volontaires.
Et deux informations santé encore sur la dengue. Le nombre de cas importés des Caraïbes ou d'Amérique latine augmente fortement, plus de 1600 depuis le début de l'année, contre une centaine à la même personne l'année dernière. Et puis la Fondation Jean Jaurès nous donne une meilleure idée du temps d'attente pour avoir un rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. En se basant sur les statistiques de la plateforme Doctolib, plus de 200 millions de consultations épluchées. Résultat, il faut en moyenne 3 jours pour un rendez-vous chez un généraliste, mais beaucoup plus pour certaines spécialités, avec de forts écarts entre les départements. Dans la Sarthe notamment, il faut compter plus de 3 mois en moyenne pour consulter un cardiologue. C'est le reportage de Gabriel Grécourt.
Dans la salle d'attente de la clinique du Mans, ce patient tente de prendre un rendez-vous de cardiologie suite à une opération il y a quelques années.
J'aurais dû déjà passer un test d'effort là, un an après la pose des stents. Et là, je suis à 3 ans, même 4 ans, et on ne m'a pas encore passé de test d'effort. C'est inquiétant, surtout quand on vous pose des stents et vous avez un problème cardiaque. Et pour nous, on le vit mal, hein, c'est sûr.
Il faut dire qu'il n'y a que 4 cardiologues pour 100 000 habitants dans la Sarthe. C'est une moyenne très basse par rapport au niveau national. Résultat, les durées d'attente s'allongent. Gwenola Thérien est cardiologue à la clinique du Mans.
Mes prochains rendez-vous sont en novembre.
Aucun créneau dans son planning avant 7 mois donc. Pourtant, elle ne ménage pas ses heures et travaille en moyenne 50 heures par semaine.
On est épuisé aussi un peu physiquement et moralement et c'est vrai qu'on se dit qu'il va falloir tenir encore. Mais je peux ouvrir 24 sur 24 et ouvrir samedi dimanche. Hein. Je sais que je remplirai le planning mais moi je ne vais pas survivre. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est stressant pour tout le monde. On a une population qui est stressée parce qu'elle n'a plus accès à son médecin comme avant, mais c'est aussi stressant pour nous. On fait le maximum.
Bonne nouvelle en revanche, au niveau de la région des Pays de la Loire, le nombre de cardiologues a tendance à augmenter, plus 3% par an entre 2016 et 2021.
Et n'hésitez pas à aller voir la carte très bien faite sur le site de France Inter. spécialité par spécialité. L'intelligence artificielle pour simplifier l'administratif, oui, si elle est 100% française, et le gouvernement annonce son déploiement aujourd'hui pour répondre par exemple aux 16 millions de demandes annuelles sur les impôts, on est en plein dedans, ou alors pour des supports d'enseignement pour les étudiants.
Les Français se passionnent-ils pour les croisières?
Regardez les chiffres. Le secteur carbure, oui. Près de 32 millions de passagers l'année dernière. C'est bien plus qu'avant le Covid. Et sur des bateaux de toute taille. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Y compris les plus gros.
Oui, ces immenses navires de 4000 lits, ces géants des mers. Ils représentent aujourd'hui 12% de la flotte de bateaux de croisière. Eh bien, ils en représenteront 15% d'ici 4 ans, malgré les critiques sur l'impact environnemental du secteur. Alors, parallèlement, des navires de taille plus modeste, entre guillemets, quelques centaines de places apparaissent dans le paysage, avec même de petits modèles, quelques dizaines de passagers pour des expéditions vers les pôles ou pour des croisières de luxe. L'Association internationale des croisiéristes met en avant aujourd'hui le rajeunissement très net de son public, âge moyen 46 ans, c'était 10 ans de plus il y a une décennie, croisière en famille avec 3 générations sur le bateau ou en solo avec un nouveau public entre 20 et 40 ans, hausse très forte de la clientèle américaine, plus 17% en 2023, plus 6% pour les Européens. La problématique du surtourisme est pourtant bel et bien là, avec parfois des quotas, un étalement des escales en vigueur depuis 2019 à Dubrovnik par exemple, Santorin, Barcelone ou Lisbonne. Les croisiéristes assurent que ces régulations portent leurs fruits malgré la forte croissance de ces voyages. Ce sont les porte-parole du secteur. La barre des 40 millions de passagers annuels devrait être franchie en 2027.
Merci beaucoup Claire Chaudière. Si vous devez prendre l'avion, je dirais renseignez-vous, parce que le mouvement des contrôleurs aériens s'annonce très suivi. Les compagnies s'attendent à un nombre d'annulations considérables, disent-elles. Et une deuxième grève est déjà annoncée dans le secteur pour le week-end de l'Ascension du 9 au 11 mai prochain. Les aéroports qui seront des lieux incontournables l'été prochain pour les Jeux Olympiques, lieux de passage des touristes, des athlètes et de leurs bagages. Comment fait-on passer les contrôles facilement et rapidement à des perches, à des kayaks, à des vélos? Ce sera leur épreuve olympique à eux, aux aéroports Roissy comme Orly, a d'ailleurs prévu une bagagerie spécifique. Bonsoir Magali Homo.
Bonsoir.
Vous venez de la visiter.
Oui, c'est une sorte de hangar immense, 8000 mètres carrés. Sébastien Malocène en est le responsable.
Donc les bagages vont arriver depuis le village olympique dans des camions qui sont scellés. Une fois qu'on va les réceptionner ici, on va les mettre en stock provisoirement, puis les injecter progressivement sur les différentes lignes d'injection que vous voyez là.
Oui, face à nous, effectivement, une dizaine de lignes pour gérer donc toutes sortes de bagages, notamment, vous le disiez Hélène, des équipements un peu particuliers.
Ça peut paraître surprenant, mais les athlètes voyagent bien avec leur kayak ou leur canoë en soute. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement, donc on a l'habitude de gérer ce type de bagages. Maintenant, avec ce flux-là, c'est un défi qu'on entend gérer sous cette tente.
Au total, sur quelques jours, 17 000 bagages hors format vont transiter contre 4 000 par an en temps normal. Edouard Huckwright, le directeur général exécutif du groupe ADP.
On n'a pas le temps et on n'a pas les moyens de permettre qu'il y ait le moindre problème technique. Donc on a choisi la simplicité. C'est pour ça que l'opération est manuelle. Vous n'avez pas une machine qui repère le code barre pour savoir si on va le mettre qui pour Atlanta, qui pour Nairobi ou qui pour Pékin. Tout cela se fait de façon manuelle pour éviter la panne et s'assurer de cette robustesse.
Voilà, objectif, éviter à tout prix les couacs dans toutes les têtes, les affres de l'été 2022 avec d'interminables files d'attente aux postes frontières et des touristes excédés.
Et à l'aéroport d'Ajaccio, ce sont des défaillances graves qui ont été constatées au niveau du filtrage bagages et passagers de l'aéroport après 3 missions d'audit successives. L'aéroport placé sous surveillance renforcée de la Direction Générale de l'Aviation Civile. 37 ans à la barre et un départ. Le patron du groupe M6, Nicolas Taverneau, quitte le navire. Le conseil de surveillance vient de l'acter. Parrain du paysage audiovisuel français, Nicolas Taverneau restera celui qui aura su innover, Alexandra Hakoun.
Avec Nicolas de Taverneau, M6 sera entré dans la cour des grands, passant du statut de petite chaîne musicale à celui de poids lourd de l'audiovisuel européen. Mais à l'écouter, sa plus grande fierté restera d'avoir lancé des émissions devenues des références, Capital, La Nouvelle Star et bien sûr, en 2001.
11 célibataires coupés du monde.
Le Love, c'est à la fois un bon souvenir et le plus mauvais.
Nicolas de Taverneau.
Bon souvenir parce que quand vous faites de la télévision, vous voulez être novateur, vous voulez faire des ruptures. Et en même temps, un très mauvais souvenir parce que ça a duré, je ne sais pas combien de temps, 3 mois Moi, j'avais protection policière à l'époque parce que, bon, vous voyez les menaces. On avait tout le monde contre nous. Et tous les matins, il y avait un journal largement répandu qui écrivait, mais quand est-ce qu'on mettra fin à cette perversion contraire à la dignité de la personne humaine?
23 ans plus tard, l'expérience demeure un vrai tournant dans l'histoire de la télévision française, même si la télé d'enfermement n'a plus trop la cote. Son plus grand regret?
La fusion TF1-M6, ça n'a pas été autorisé à le faire. Je pense que c'est une grosse erreur parce que, en Europe, on va s'apercevoir quand même qu'il y a des rouleaux compresseurs internationaux qui arrivent. Hein.
Les plateformes, bien sûr, et la guerre du streaming face à des audiences télé qui ne cessent de baisser. Mais ça, ce sera désormais l'affaire de son successeur, David Laramendi.
David Laramendi, 50 ans, il était jusqu'ici directeur de la régie publicitaire. Enfin, saviez-vous que les poules rougissent? C'est une découverte des chercheurs de l'INRAE qui ont observé pendant 3 semaines, fallait être attentif, s'y pencher sérieusement. Ils les ont observées sous toutes les coutures. Ces 6 poules de race Sussex, il y a des nuances en plus. Elles rosissent face à des vers de farine et deviennent écarlates quand on essaie de les capturer. Bon, vous pouvez imaginer, les chercheurs, ils voient en tout cas une piste pour faire évoluer le bien-être animal.
C'est vrai qu'en même temps, au moment où elles se font capturer, souvent c'est trop tard. Évidemment. C'est rarement une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Hélène Philly.